5, 4, 3, 2, unité, top.
Chaque semaine dans l'Auberge Espagnole, on reçoit...
Tout y passe et tous y passent.
L'Auberge Espagnole sur les ondes de Divergence FM, le 93.9. Bien évidemment, si vous ne savez pas quoi faire, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, eh bien Mathieu et Mathieu, on pensait à vous.
Du 6 au 9 novembre, Mansa Live Productions présente... Le Mansa Jam Festival au Jam. Mansa Live Productions, c'est deux passionnés de musiques afro qui vous embarquent pour 4 soirs. Mercredi 6 novembre, Tao Ravao et Vincent Bucher Quartet. Tao Ravao est né en 1956 à Madagascar avec l'harmoniciste Vincent Bucher. Il crée une musique transgenre vers un horizon afro-blues trans-malgache. Jeudi 7 novembre, l'afro-rock instrumental et explosif du quartet Juju Rock, des londoniens allant du rock dur et psyché à l'afrobeat en passant par le dub, le jazz et autres black music. Vendredi 8, Coco Dembélé, l'un des pionniers du reggae au Mali depuis les années 70, qui a écumé pendant plus de 30 ans les scènes ouest-africaines, allemandes ou brésiliennes, au Jam, pour sa première tournée en France. Samedi 9, le Groove Killer Project. Multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur et directeur musical, Sheikh Tidiane Seck est surtout connu pour ses talents de claviériste. Il a accompagné Jimmy Cliff, Fela, Jose Winul, Carlos Santana, Hank Jones ou Assassin. Le projet à géométrie variable Groove Killer est né sous le signe d'un groove afro-jazz qui flirte avec la drum and bass et la jungle. Le Mansa Jam Festival, c'est au Jam, du 6 au 9 novembre. Plus de renseignements sur www.lejam.com.
Et voilà, vous l'entendez depuis quelques jours déjà tourner sur les ondes de Divergence, ce petit message de promotion pour ce festival qui, c'est la première édition. Alors on est avec les deux Mathieu. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Gilles.
Et puis il y a aussi Coco Dembélé qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors on est ravis de vous avoir pour ce qui est un coup d'envoi d'une longue série d'événements autour de la musique afro. Peut-être avant de parler de l'avenir, on va parler du présent ou même peut-être un petit peu du passé. Comment tous les deux vous êtes tombé dans le chaudron de la musique afro?
On est tombé dans le chaudron de la musique afro il y a un petit moment. On est runner sur Fiesta 7. Et donc, ça veut dire qu'on s'occupe des artistes, des journalistes et tout ça. Et on a eu la chance de rencontrer Salif Keita et d'avoir un très bon feeling avec lui. Sur le quai de la gare de 7, il nous a donné le numéro de téléphone de sa femme. Donc nous, on est parti 6 mois plus tard et c'est là-bas qu'on s'est plongé dans le chaudron en plein. Voilà, on était avec ses musiciens. Et c'est comme ça qu'on a rencontré une chanteuse malienne, un guitariste qu'on a fait venir. Et ensuite, Coco Dembélé qui est là.
Donc rien ne vous prédisposait à devenir organisateur de concerts, sinon la passion
Ouais, bon, la passion quand même. Après, ça fait un moment que ça nous trottait. Moi, je suis un gros mangeur de disques, amateur de concerts. Et bon, au bout d'un moment, on a envie de voir les artistes que très peu de gens connaissent, qui habitent très loin et qui pourtant sont vraiment géniaux. Et forcément, un jour ou l'autre, ça devait arriver de toute façon. Parce que voilà...
Ça devait arriver, mais alors ça se prépare. Il y a toujours un risque quand même important à faire venir
des
gens.
Il y a un très gros risque.
Donc, comment vous vous êtes aguerri pour mener ce projet à terme?
On s'est aguerri. Bon, déjà, depuis qu'on bosse à Fiesta 7, on a vu un peu comment ça se passait. On travaille régulièrement avec le Jam aussi, donc on voit bien comment ça se passe. Et puis bon, nous, on s'est aguerri pendant les premières tournées qu'on a fait avec les artistes maliens qu'on a fait venir, qu'on a fait rester en résidence pendant 5 mois à Montpellier. Donc, on était vraiment avec eux dans le jus. On voit comment ça se passe. Et voilà, après, un jour, avec Adrien du Jam, on s'est dit, nous a dit, ce que vous nous avez proposé déjà, c'était super, ça a marché. Faisons quelque chose d'un peu plus conséquent. Sur un bout de papier, on a écrit, on s'est dit, on va faire un festival d'un mercredi au samedi. Bon, maintenant, il faut trouver les artistes. de préférence des artistes pas du tout connus. Voilà, parce que après, c'est un festival de découverte et qui s'adresse aussi aux mélomanes ou ceux qui veulent devenir mélomanes. C'est pas fermé, mais en même temps, on n'a pas voulu se trouver une grosse tête d'affiche pour juste pour faire joli. Enfin, on a une tête d'affiche, Cheikh Tidian Sek, mais c'est vraiment les amateurs qui connaissent ça. Plein de gens l'ont entendu sans savoir qui est ce personnage.
Alors pour l'instant, l'autre Mathieu n'a rien dit. Comment vous vous répartissez les rôles et qui fait quoi?
On est assez complémentaires en fait. On travaille tous les deux. Mathieu, c'est vrai que lui étant musicien, il a une connaissance du feeling des artistes et une façon de travailler auprès d'eux qui lui est propre. Moi, après, j'ai beaucoup vécu en Afrique et j'ai une grande sensibilité au niveau des artistes africains. Donc, on se partage le travail. Moi, je m'occupe pas mal aussi de la communication autour du festival, autour de notre association. Mais on travaille de manière complètement complémentaire en fonction des compétences qu'on a tous les deux, qu'on a acquéries au cours de notre expérience.
Une expérience qui vous permet de démarrer ces 4 jours de concert. Alors jeudi, ce sera un rendez-vous, à mon avis, fort attendu par tous ceux qui aiment un peu le côté funk rock de groupes disparus, qui ne sont plus actifs aujourd'hui. Là, ce seront les Londoniens de Juju Rock, de l'afro rock, qui est un genre qui n'est pas super pratiqué.
Non, c'est très peu pratiqué. Et pourtant, on a en France quelques groupes comme ça. Moi, je pense notamment à un groupe qui est mené par 2 protagonistes montpelliérains, s'appelle The Afro Rockers. Bon, là, c'est pas instrumental, mais voilà, c'est un genre musical qui est un peu banni, laissé dans l'underground. On sait pas trop pourquoi, parce que c'est de la musique comme le reste de la musique. Et je pense que les gens qui vont venir jeudi soir, qui ne connaissent pas et par curiosité, je pense qu'il y en a pas mal qui vont prendre une claque en écoutant ce groupe, parce que voilà, ça joue fort, peut-être, mais c'est très musical. Et puis nous, c'est ce qu'on voulait, un peu amener un peu plein de couleurs différentes dans notre programmation.
Et puis comme toujours, c'est l'histoire de rencontre, parce que Juju Rock, c'est Christian, le guitariste qui est le meneur du projet, qui est d'ailleurs toujours le guitariste du Space Band avec Anthony Joseph. Et on a eu l'occasion avec Cosmic Groove de travailler sur ces concerts-là, avec Fiesta aussi. Et du coup, on a beaucoup sympathisé avec ce guitariste Christian et il nous a proposé son projet complètement nouveau l'année dernière. Et on a dit banco, on a décidé de leur faire faire leur première scène en France parce qu'on trouve que c'est qu'il y a une démarche musicale et artistique extraordinaire et voilà.
Juju Rock à ne pas rater absolument, ce sera jeudi soir sur la scène du Jam. Et puis vendredi, eh bien, il est avec nous, c'est Coco Dembélé, pour donc une première tournée en France. Comment ça se fait que tu n'aies jamais tourné en France auparavant?
Bon, effectivement, auparavant, dans ma carrière solo, justement, je n'ai pas encore tourné en France, c'est la première fois, mais sinon j'ai tourné en France avec l'Orchestre Kanaga.
Ah oui.
De mon petit. Mm-hmm. J'ai fait le Zénith, j'ai fait l'Angoulême. Mm-hmm. Cela, j'ai fait.
D'accord.
Mais c'est ma toute première fois maintenant en carrière solo.
Ouais.
Vraiment, je suis en forme pour ça, quoi. Mm-hmm. Il faut que j'arrive à convaincre ce public-là, quoi. Et je suis prêt.
Ben on n'en doute pas une seconde. Alors tu as commencé avec les percussions, je crois, vers l'âge de 7 ans. Et puis tu as beaucoup voyagé dans le Mali pour t'imprégner des cultures traditionnelles. Qu'est-ce qui t'a amené au reggae?
Ouais, mais justement, ce qui m'a amené au reggae, le reggae d'abord est une musique qui provient du ghetto. Mm-hmm. Des gens à la situation sociale qui sont souvent privés de leurs droits élémentaires. Et j'en faisais partie aussi. Mm-hmm. Ouais, non. Et quand j'ai écouté les Bob Marley comme les Jimmy Cliff, finalement, je me suis engagé, quoi. Et j'ai fait mon reggae, Rousse Dogon, purement africain du Mali. Et ça n'a rien à voir avec le reggae de l'Occident, ni de la Jamaïque. Mm-hmm. Voilà, effectivement.
Merci. Alors le Mali auquel on pense beaucoup puisqu'on est jumelé avec Radio Tabalé à Bamako et que le Mali en ce moment va pas très bien, faut bien le reconnaître. Tu as eu la gentillesse de venir avec ton instrument. Alors tu vas nous jouer un petit morceau, on te laisse nous le présenter.
Merci. Merci. Thank you.
Coco Dembélé, merci beaucoup en direct sur les ondes de Divergence pour illustrer ce concert du vendredi 8 novembre où il sera sur la scène du Jam dans le cadre de ce premier Mansa Jam Festival. Un festival qui se poursuivra samedi 9 avec le Groove Killer Project. Peut-être avant de détailler ce dernier concert, revenir avec Coco Dembélé sur la musique. Alors, est-ce que tu seras seul sur scène pour ce concert?
Ouais, pour ce concert, je serai seul en solo justement, mais je suis entouré de mes musiciens. Je suis entouré de 6 musiciens.
D'accord, des musiciens qui t'accompagnent d'habitude ou qui sont venus pour ce concert?
Bon, il y en a qui sont venus pour ce concert, on a répété il y a longtemps, il y en a qui sont venus avec moi du Mali. Ils sont là.
D'accord.
Ouais.
Donc c'est quoi le line-up au niveau des instruments?
Alors il y a son bassiste Issa Ouattara, donc qui est arrivé du Mali, le batteur Souleymane Dembélé qui l'accompagnait au Mali également et qui vit à Paris depuis un moment, donc qui est descendu pour le concert. Et après c'est le reste de l'équipe est composé de musiciens montpelliérains puisque notre association aussi fait en sorte de créer un échange entre les musiciens d'ailleurs et d'ici. Donc il y aura notamment Emma Lamadji et Marie Nicole Nati au chœur, donc que beaucoup de gens connaissent, et Daniel Moreau au clavier et Bastos à la guitare.
Oui, donc un joli line-up.
Oh oui.
Donc ça promet des moments forts sur la scène du Jam. Ça c'est donc vendredi 8 novembre et puis samedi 9 ce sera le dernier soir avec le Groove Killer Project de Sheikh Tidiane Seck. Tu disais pas de tête d'affiche, mais c'est un petit peu votre tête d'affiche.
Bien sûr, c'est un peu notre tête d'affiche, mais c'est vrai que quand on a présenté un peu ce festival à nos amis ou aux gens qu'on connaît, la plupart des gens ne connaissaient aucun des artistes qui étaient passés. Alors bon, quand je leur disais qui était Sheikh Tidiane Seck, il y en a qui me disaient qu'effectivement, ils voyaient un peu qui c'était. Mais oui, c'est pour les amateurs de jazz un peu métissés ou de groove. Mais c'est vrai que voilà, le nom de Sheikh Tidiane Seck, lui, il joue beaucoup pour les autres. Il a fait seulement, sous son nom, seulement 3 albums solo. Ça fait un peu plus de 30 ans qu'il joue aussi. Et ces 3 albums, il les a enregistrés sur les 10 dernières années. Donc voilà, ça lui a... Bon, son dernier disque a eu une bonne campagne promotionnelle et a eu de très bons retours de la critique. Donc bon, ça a aidé encore le public à se rappeler de lui, mais c'est pas un artiste solo comme on entend souvent, alors que si, en fait.
Après, c'est un artiste qu'on a voulu faire aussi parce que...
Pardon,
excusez-moi. C'est un artiste qu'on a voulu faire aussi parce qu'il est, il a la même vision, si vous voulez, de la musique et du travail que nous. C'est un monsieur qui a l'habitude d'aller dans tous les projets, de soutenir toutes les, tous les projets émergents. C'est pas quelqu'un qui a la grosse tête. Il est prêt à venir, à se déplacer partout pour soutenir les projets quand il pense que ça vaut le coup. Et c'est ce qu'il a fait en venant à Montpellier quand on l'a sollicité pour le projet de Yacoub Afouni qu'on a fait cette année. Voilà, il est venu en résidence à Montpellier avec nous, nous a beaucoup soutenus et la vision qu'il a de la musique et du travail avec les artistes nous a beaucoup touchés et on a eu envie de le mettre à l'honneur de ce festival comme parraine du festival pour ces raisons-là aussi.
Est-ce que la scène afro, c'est une scène qui est facile à développer en France
Pas vraiment, non. C'est parce que c'est quand même assez cloisonné. Il y a pas mal de festivals quand même. La France est quand même bien fournie en festivals de musique dite du monde. Même si le punk est une musique du monde, comme n'importe quelle autre musique. Mais c'est sûr que si on prend, on cherche pas vraiment des artistes qui sont à la mode, qui sont beaux. Vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment. C'est sur l'intention musicale et artistique qu'on fait nos choix. Et après, c'est sûr que la plupart des festivals sont étonnés quand on leur envoie... Enfin, on a assez rarement des réponses de retour quand on envoie des propositions de groupes. Après, Disons que nous, notre difficulté principale, bon, on l'a bien choisi, hein, c'est qu'on fait venir des artistes d'ailleurs qui ne sont pas du tout connus ici, qui n'ont en général, à part Coco, mais qui n'ont pas trop enregistré de disques avant... qui n'ont pas vraiment de vidéos, qui n'ont rien. Et donc déjà, avec ça, c'est très dur de convaincre les festivals. Et puis, bon, mais ils aiment tous, enfin pas tous, mais il y en a beaucoup qui aiment se refiler les mêmes groupes qu'on voit tourner pendant des années. C'est un peu tout le temps la même chose, en fait. Et on a l'impression que la scène musicale africaine, je ne vais pas citer de nom, mais ça en tient à deux ou trois chanteuses et quatre ou cinq musiciens, ce qui est totalement idiot. Et puis je pense que c'est aussi comme ça qu'on éloigne les gens... de la culture, c'est-à-dire que on va les chercher, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi à eux de venir des fois. Comme l'apprentissage, hein, l'enseignement. On reçoit un enseignement quand on est enfant et puis après on en fait ce qu'on en fait. Donc on peut avoir très, très bien instruit et ne rien en faire ou ne pas avoir été du tout instruit et faire, aller chercher par soi-même. Et nous, c'est ça aussi qu'on veut, hein, c'est arrêter de donner à manger comme ça. C'est les gens, ils viennent et ils choisissent ce qui leur plaît.
Très bien, on vous remercie d'être venu dans nos studios. On rappelle que ça se passe au Jam à partir de ce mercredi jusqu'à samedi, donc vous n'aurez aucune excuse. Il y a bien un soir où vous aurez ni
forcément
piscine ni la jambe cassée. Et
je tiens juste à préciser qu'on a essayé de faire une politique tarifaire assez basse pour encourager le plus de Montpellierains à venir, puisque la première soirée avec deux groupes est à 13 €, le jeudi c'est gratuit, donc voilà. Ouais. Et le lendemain c'est 13 € aussi, et 18 € pour la tête d'affiche, et après c'est gratuit pour tous les jeunes jusqu'à 15 ans, voilà.
Voilà, amis jeunes, si tu nous entends, eh bien, prends tes baskets et va au Jam.
Exactement.
À partir de demain soir. Coco, merci de nous avoir interprété ce titre.
Merci.
On te souhaite un excellent concert dans le cadre de ce festival. Ce sera vendredi pour ce qui te concerne. Et puis, on se quitte avec un tout petit peu de musique avant de passer à la suite. Merci, à très bientôt sur les ondes de Divergence. Les amateurs de high-tech et de spectacles interactifs et de choses super bizarres iront peut-être au Théâtre Jean Villard ce 7 et 8 novembre pour voir le spectacle 1. C'est tout, entretien avec Claire Barden. Nous sommes au téléphone avec Claire Barden, bonjour.
Bonjour.
Alors on vous reçoit puisque vous allez intervenir, on va le dire pour l'instant comme ça, vous allez intervenir au Théâtre Jean Villard à Montpellier pour ce qui n'est pas ni un spectacle ni une conférence, ça s'appelle 1. C'est tout, ni un spectacle ni une conférence, c'est quoi exactement?
Ça va être un peu les deux à la fois, et en effet ni l'un ni l'autre. Ça sera peut-être, on va dire, un manifeste, pour être un petit peu audacieux. Le manifeste, en fait, de la façon dont on travaille avec Adrien Mondeau. Donc, qu'est-ce qui constitue un peu nos matières premières de recherche? Donc, elles sont numériques avant tout, hein. Ce sont des dispositifs technologiques, mais aussi des sources d'inspiration, un imaginaire, un monde graphique. Et on a eu envie en fait de créer ce moment où on délivre un petit peu le dessous des cartes de comment on fabrique nos spectacles et nos expositions. Donc voilà, il y a des moments spectaculaires et des passages de conférences où on explique tout ça.
Alors avec Adrien Mondeau, vous constituez la compagnie Adrien M. Claire B. Vous travaillez donc dans le champ des arts numériques et des arts vivants, ça depuis 2004. Et vous créez des formes allant du spectacle aux expositions, associant le réel et le virtuel. Tout ça à travers un outil, si j'ai bien compris, que vous avez vous-même développé.
Alors absolument. Adrien est donc informaticien au départ, ainsi que jongleur. Et un jour, environ dans les années justement 2004-2005, il a eu envie de créer un logiciel qui permette finalement de jongler avec des images, de jongler avec de la matière numérique. Et depuis ce jour, il développe un logiciel qui s'appelle eMotion, pour Electronic Motion, et qui permet de créer des interactions entre des images et des informations issues du monde réel. Nous travaillons avec ce logiciel pour chacun des projets, et c'est un logiciel qui évolue évidemment pour chacun des projets.
Ce qu'il y a de particulièrement impressionnant ce qui est à la fois une conférence et un spectacle, c'est justement cette interaction entre ce qui est projeté, des éléments lumineux dont on n'arrive pas à discerner comment ils sont justement projetés dans l'espace.
Alors on joue un peu sur cette illusion d'optique justement. On aime bien se dire qu'on crée des sensations, on crée une expérience visuelle, et qu'en même temps, on peut en dévoiler les dessous. Et que c'est pas parce qu'on explique comment ces illusions d'optique existent que le public n'est pas emporté, n'est pas embarqué. Voilà, on travaille avec des vidéoprojecteurs, hein, très simplement, on ne le cache pas, on n'est pas des magiciens. Des vidéoprojecteurs, on travaille sur un tulle où on permet comme ça la superposition finalement d'une image avec des corps et de donner les sensations finalement que les deux rentrent en conjonction et qu'ils habitent un monde unique. En fait, on cherche à créer des extensions de la réalité avec des images vidéo en mouvement, et en créant comme ça un dialogue qui est très organique, qui est très vivant, puisque aucune des vidéos qu'on projette n'est enregistrée, tout est animé en direct, sur scène, en même temps que le spectacle.
Ça transparaît dans l'intitulé, ni un spectacle ni une conférence, cette volonté justement de dévoiler la magie qu'il y a derrière l'effet, sans craindre que ça fasse disparaître justement cette magie, ce qui atteste quand même d'une réelle volonté d'ouverture, de partage des connaissances et de pédagogie finalement dans votre travail.
Alors certainement, c'est clair qu'on a eu envie vraiment de raconter comment les choses se font, de transmettre... Ouais, un petit peu notre boîte à outils, et de faire le pari, je le disais à l'instant, que c'est pas parce qu'on comprend comment ça marche qu'on n'est pas emporté. Adrien, donc lui, vient des sciences, moi j'ai plus un parcours en art appliqué. On a tous les deux un vrai attachement à l'esprit de l'atelier, à l'esprit du laboratoire, à l'esprit de la recherche. Et c'est vrai qu'on a envie que les informations circulent, que les idées aussi, et qu'on puisse raconter chacun comment on construit. Comment on construit les projets. En tout cas, nous, c'est l'état d'esprit dans lequel on travaille.
Ces manipulations, ce jonglage, ces éléments virtuels sont accompagnés d'une création sonore et musicale d'un groupe qu'on connaît un petit peu à Montpellier, qu'on a déjà vu, qui s'appelle Rien, groupe de post-rock atmosphérique, qu'on peut dire comme ça. Comment s'est fait le lien entre vous et Rien ?
Alors déjà, parce que je pense qu'on vient tous de la même ville au départ, et on a eu envie comme ça de créer... disons une atmosphère en effet où une poésie graphique assez minimaliste rencontre une musique qui pour nous on adore, qui est la musique de Rien, et qui charge en fait d'émotions, des signes qui paraissent extrêmement simples. Je vais donner un exemple très précis. Là par exemple, on va avoir une myriade de points qui vont bouger d'une certaine façon. À un moment donné, ils vont bouger par exemple comme des flocons de neige. Et ben on va charger d'imaginaire grâce au mouvement et aussi grâce à la musique. Et on va tout d'un coup voir apparaître une tempête. On va voir les mêmes points qui vont bouger d'une autre façon à un autre moment, par exemple, qui vont tomber comme des pierres. Et ben, la musique, tout comme le mouvement, alors qu'on a en face de nous des petits points tout blancs, tout simples, et ben, la musique comme le mouvement vont charger d'imaginaire et raconter une histoire. Donc notre ambition, en fait, à Adrien et moi, c'est de faire cette démonstration. On a un univers minimaliste, graphique, mais il peut être onirique et il peut créer des sensations et il peut créer des émotions par le mouvement et par la relation avec le corps, et dont la musique permet de une respiration commune.
Alors la compagnie Adrien M, Claire B, c'est vous deux. Nonobstant, sur ce spectacle, vous avez aussi Loïc Drou-Glazet qui s'occupe de dispositifs informatiques, régie son et lumière. Antoine Coste qui est un assistant sur les côtés modèles physiques. Charlotte Farcé et Valérie Pêche qui sont le regard extérieur. La régie générale est assurée par Laurent Lechenot. L'interprétation, c'est vous deux. Et puis quand on va sur votre site, on voit que toute cette compagnie, c'est quand même un staff assez important. On peut s'en rendre compte sur www.am-cb.net.
Alors c'est vrai que Adrien et moi, on mène la direction artistique de cette compagnie, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Tous les projets qu'on réalise, on est en effet très nombreux et on essaye en effet... au contraire, même, je dirais, de créer des projets les plus ambitieux possibles aussi pour faire apparaître des situations où chacun peut apporter son savoir-faire, son expertise, ses compétences. Moi, je suis plutôt plasticienne. J'ai envie de pouvoir travailler en écrivant avec le corps aussi. Et c'est clair que la rencontre avec des danseurs et avec des danseuses est fondamentale et bouleversante pour ça. Et donc, le travail de compagnie, il est aussi très intéressant de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on est nombreux et ça crée une vraie richesse aux différents projets. Après, ce qui est pour nous important, c'est de se resituer, quoi qu'il arrive, dans le cadre du spectacle vivant et des arts du mouvement, et de travailler, même si on travaille avec un outil numérique, avec le vivant et avec le mouvement, et d'essayer de transposer à tous nos outils numériques ce qui fait la spécificité, finalement, d'un corps vivant sur un plateau. Sa fragilité, son énergie, le fait que les choses adviennent comme ça une seule fois et jamais deux fois de la même façon. Et en effet, on essaie de s'entourer de tout un tas de personnes, tant en régie technique que en danse, qui nous permettent de faire advenir ce projet de mixité technico-vivante.
Alors un projet qu'on pourra voir ici à Montpellier ce 7 novembre deux fois, une fois à 14h30, une fois à 20h. Et puis le 8 novembre, ce sera à 20h, un spectacle-conférence qui dure 55 minutes et qu'on ne peut qu'encourager les Montpelliérains à y faire un saut, à aller voir aussi sur le site du Théâtre Jean Vilar ou sur le site de la compagnie des images de tout ça, des images qui font envie. J'imagine que est-ce que c'est dans le cadre d'une tournée plus vaste que vous intervenez au Théâtre Jean Vilar à Montpellier?
Ah oui, on a une tournée de plusieurs projets en ce moment, à la fois des installations interactives qui sont présentées au Planétarium de Vaux-en-Velin, la création d'un spectacle performatif pour une danseuse, et puis cette conférence spectacle qui accompagne les projets, voilà, comme un peu un dessous des cartes, d'autant plus qu'on propose toujours à la fin du spectacle, de la conférence spectacle, un moment d'échange en fait avec le public pour compléter un peu la discussion par des questions ou des remarques. On aime bien comme ça créer ce lien-là avec le public.
Alors, ma dernière question sera une question un petit peu technique. Ici, à Divergence FM, on a décidé en 2003-2004 de s'informatiser par et pour les logiciels libres. Alors, est-ce que le logiciel eMotion que vous avez développé est disponible sur toutes les plateformes? Est-ce qu'il est accessible à tous ou est-ce qu'il est à vous?
Alors, déjà, on peut tout à fait le télécharger sur le site de la compagnie. Donc, on le redit, am-cb.net. Donc, on invite vraiment toutes les personnes qui auraient envie de l'utiliser à venir le télécharger et à tester. Il est utilisable pour l'instant et jusqu'à nouvel ordre uniquement sur Mac, donc sur les dispositifs Apple. Et on essaye de créer une communauté d'utilisateurs pour échanger sur les différents... les différentes façons d'utiliser le logiciel afin qu'il y ait de plus en plus d'informations qui circulent et que de plus en plus de personnes puissent s'en emparer. Mmh. Un peu de temps et on est déjà un peu débordé, on a du mal à organiser cette communauté, mais en tout cas ça fait partie de nos envies et de nos ambitions à court ou à moyen terme, de créer une communauté des utilisateurs de eMotion.
Est-ce que ça veut dire qu'à terme le logiciel lui-même pourrait devenir libre? C'est-à-dire que les sources pourraient être accessibles?
On n'en est pas là, mais en tout cas, on est preneur, disons, de tout un tas de retours sur l'utilisation pour l'améliorer. et pour faire en sorte que les maximum de tutoriels, de notices, de modes d'emploi, de cas d'exemple qui permettent que ce logiciel vive finalement et que d'autres projets puissent le faire exister.
Claire Barden, on vous remercie pour ces quelques minutes que vous nous avez accordées.
C'est moi qui vous remercie.
Au téléphone, ça s'appelle Un point c'est tout. C'est à voir au théâtre Jean Villers à Montpellier ce 7 novembre à 14h30 et 20h. Le lendemain, 8 novembre à 20h. Ça dure 55 minutes et on souhaite que le public soit au rendez-vous. Merci beaucoup.
À très bientôt.
Au revoir.
L'Auberge espagnole sur Divergence FM, c'est tous les mardis de 12h à 13h.
Quelque chose de pas trop dégueu.